Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Najwa El Atfani, directrice générale déléguée BNP Paribas. Promotion immobilier. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, on a eu une première interview et j'incite d'ailleurs les auditeurs à bien vouloir reprendre leur podcast et écouter l'interview numéro 1. On a évoqué pas mal de sujets, dont effectivement la crise que nous sommes en train de vivre. Mais moi, j'aime pas trop parler de crise et tout ça. J'aime bien parler de l'avenir et des choses qui sont intéressantes et importantes. On sait aujourd'hui qu'à peu près 40% du parc immobilier de logements à venir se fait déjà et va se faire en réhabilitation. Un promoteur, au début de, on va dire que de sa vie de promoteur et de développeur, ne s'intéresse pas trop à la réhabilitation. Et pourtant, vous êtes obligé de le faire. Qu'est-ce qui fait ? Comment vous travailler sur ces nouveaux produits? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez faire l'acquisition d'un bâtiment existant et imaginer des logements, justement, de qualité, comme vous l'évoquiez dans la première interview, qui fassent que ça prend sens?
Alors, ce que je crois, c'est que vous avez raison, hein, en logement, c'est plutôt nouveau. On avait l'habitude d'acheter un terrain, on a une emprise foncière et puis on développe un bâtiment de logement neuf, ce qui est moins le cas en tertiaire. En réalité, ça fait longtemps qu'en tertiaire, notamment, on fait des réhabilitations. Paris a été plutôt précurseur, mais parce que le foncier est bien plus rare. Donc, de fait, et puis c'est quand même là le centre névralgique économique. Donc, en fait, c'est au fond les promoteurs comme nous qui ont cette culture du tertiaire. On a un peu plus cette facilité à le faire parce qu'on a les équipes techniques en interne. On s'est étudié avec nos ingénieurs de conception, ceux qui font les études de prix et ceux qui font les programmes, hein, derrière nos directions de programme, savent réhabiliter en tertiaire. Et donc, c'est toute cette technicité qu'il faut aujourd'hui mettre. Il faut le mettre au service du logement. Donc, on le fait et c'est d'autant plus vrai qu'en réhabilitation logement, on voit beaucoup la notion de transformation de bureaux obsolètes en logement. C'est quand même ça le futur nerf de la guerre si on se projette devant. Alors, avec quelques éléments de crispation, hein, il faut là aussi...
Et de coup,
il faut faire atterrir en fait le vendeur d'un actif bureau qui en attend un certain prix, qu'il n'aura plus, et puis l'acquéreur derrière, et entre les deux, la ville doit faire parfois le deuil d'une zone de bureau qui ne sera plus jamais une zone de bureau parce que les façons de travailler et d'habiter la ville ont changé.
Alors, vous le faites en Île-de-France depuis un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des perspectives en province, dans des villes de province qui sont un petit peu plus émergentes, on va dire, de justement aussi de transformation de bureaux en logement?
Oui, bien sûr. On étudie en ce moment, typiquement dans la banlieue lyonnaise, un immeuble de bureaux plutôt en bon état. Et c'est là que c'est parfois difficile et que je comprends les propriétaires également d'actifs de bureaux quand l'immeuble est finalement pas si mal.
Des années 80, 90?
Non, beaucoup plus récent. On est sur un immeuble des années 2000 et on se dit que ça fait, même d'un point de vue environnemental, on trouve ça difficile de se dire, ce sera plus du bureau, parce qu'on se rend bien compte que personne ne veut louer et qu'il n'y a pas d'autre acquéreur. Donc là, l'enjeu, il est vraiment de se poser la question.
Parce que c'était l'immeuble au mauvais endroit pour faire du bureau?
Oui, alors, c'était pas au mauvais endroit à l'époque. C'est devenu le mauvais endroit maintenant, parce que le télétravail, parce que le retour au bureau est plus difficile, même si on en appelle, et les entreprises en appellent, au retour au bureau pour retrouver les cultures d'entreprise, pour l'attractivité des talents, mais on se rend bien compte que ça ne marchera pas très bien et qu'il y a aussi un enjeu financier. Est-ce que l'immeuble ne vaut pas plus cher, est-ce que sa valeur vénale n'est pas meilleure si je le transforme plutôt que d'avoir un immeuble à terme
ville? Comment convaincre un propriétaire d'actifs de bureaux qu'il...
Il est parfois moins difficile de convaincre le propriétaire d'actifs de bureaux parce qu'il a une vision long-termiste et qu'il se dira de toute façon, il faut que j'accepte et donc je vais perdre maintenant, mais autant vendre et puis on redonnera une vie plutôt que de porter pendant 20 ans, probablement pour rien. Il est donc moins difficile pour nous de convaincre un propriétaire parfois que de convaincre une ville qui, elle, a une vision long-termiste et puis a envie d'attendre et de résister et de se dire le bureau peut-être reviendra à cet endroit.
Et qui dit logement, si je puis me permettre dit école.
Exactement. Hein, donc après, comment on finance les équipements publics, ouais, les écoles, voilà, les gymnases. Ouais. Bon, donc c'est aussi pour ça que ces projets, ils mettent un temps fou à sortir et que ça fait des années maintenant, au moins 4-5 ans, qu'on parle de transformation de bureaux en logement et qu'on en a vu très peu.
Bien sûr.
Sortir de terre. Donc, bon, et là, je pense que le promoteur, il a un rôle essentiel parce qu'à mon avis, c'est le maillon de la chaîne de valeur d'un projet immobilier qui sait le mieux parler et aux villes et aux propriétaires parce qu'on est maître d'ouvrage quand on achète un immeuble et qu'on le transforme nous-mêmes. Donc, on sait ce que c'est que d'être propriétaire d'un immeuble. Encore plus dans un groupe intégré comme BNP Paribas Real Estate dans lequel on a de la gestion d'actifs, du property management, du conseil en transaction et puis de la promotion. Donc, on sait faire. Et puis, on sait parler aux édiles.
Ce que font pas toujours les élus, parfois, si je puis me permettre, sont liés à un point d'ancrage important qui s'appelle les élections municipales. Et lorsque vous êtes entre deux mandats et que vous commencez à travailler sur un projet et puis que entre deux il y a une élection et entre deux il y a un changement d'élu, comment fait-on pour tenir ces projets-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu quand même en 2020 cette situation sur énormément de villes et de normal, on va dire, un changement, une alternance. Et puis là, de nouveau, dans quelques mois, nous y serons de nouveau. Comment faites-vous pour tenir ces projets qui sont justement sur du long terme, sur lequel la ligne doit pouvoir...
Alors, de toute façon, le promoteur, il travaille toujours sur le temps long. Donc, au fond, on sait faire.
Ça change pas.
Ça change pas. Alors, tout est quand même plus long, hein, depuis quelques années maintenant. Et donc, bon, c'est quand même plus difficile. Et je crois qu'il faut qu'on ait un vrai discours honnête là-dessus. Mais en fait, on anticipe aussi ces périodes électorales. Et donc, les dossiers qu'on travaille un peu en amont. Plus que jamais, on va voir les maires avant l'année 2025 a été une année d'échange très très forte avec les maires et à chaque fois sur des dépôts de PC avant les élections ou après. Il n'y a pas de règle en fait. Ça appartient vraiment à chaque maire, à chaque stratégie. Il y a ceux qui accélèrent et qui disent il faut déposer surtout avant les élections et ceux qui disent bah non finalement. Surtout pas.
Cadeau.
Donc voilà, on s'adapte et c'est le jeu. Hein. De toute façon, le promoteur ne fait que s'adapter à un marché qui est très fluctuant et qui l'a rarement autant été qu'en ce moment.
Alors, vous avez évoqué à la dernière interview le fait d'avoir gagné récemment un projet où vous aviez, on va dire, apporté une réponse légèrement décalée ou décalée par rapport à une fiche de lot. C'est comment on ose, on se dit on y va quand même, quitte à perdre, éventuellement?
Oui, en fait, alors, soit on ose et on
prend... C'est-à-dire la pulsion est plus importante?
Enfin, la pression, en tout cas, est plus importante. Et donc, il faut savoir embarquer les équipes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement aussi, finalement, de stratégie dans nos réponses, parfois, aux appels d'offres. Alors, quand c'est des projets à la Réinventer Paris, là, le champ est libre.
Oui,
et je pense qu'en ça, ça a poussé aussi, à mon avis, tous les acteurs de l'immobilier à se dire sortons de nos habitudes, osons. Parce que les architectes font beaucoup plus facilement que nous. Et de fait, vous êtes forcément plus créatifs intrinsèquement. Donc, nous, ça nous a forcé aussi à l'être, à la fois dans les usages, dans l'architecture, dans nos projets, mais sur des consultations un peu standard, un peu classique, sortir des fiches de lot, c'est assez nouveau. Alors parfois on fait deux réponses, la réponse du bon élève, et puis la variante qui dit nous quand même on pense que si on faisait comme ça, vous y gagnez, on y gagne, et l'enjeu c'est de mieux faire d'un point de vue partenarial. Et donc encore une fois sur un de nos projets que je ne peux pas dénoncer parce que on n'est pas allé au bout encore et on est sur un second tour. Ça a été extrêmement bien perçu.
D'accord.
Parce qu'il y a un respect du travail d'abord proposé par la ville et l'aménageur. Exactement. Ouais. Et puis une suggestion d'amélioration, d'optimisation. Ça marche. Et à mon avis, c'est le retour d'expérience de ces années parfois de folie, de réinventons la ville, réinventons tout cela.
D'ailleurs, il y a beaucoup de projets qui ne se sont pas faits.
Non,
sur
c'est
les
vrai.
Réinventer, IMGP 1, 2, 3, enfin, etc. Nous, on est en train d'en faire un qui a mis 10 ans à sortir, enfin. Mais effectivement, c'est quand même... c'est à la fois le fait de donner l'opportunité aux équipes d'avoir une autre réponse, d'avoir une certaine certaine dynamique. Et puis, le fait de se dire, non, mais si on reste classique, peut-être qu'on a une chance de faire.
Hein. Bien sûr. Alors, il y en a aussi qui se font. Hein. On parlait des projets, notamment en réhabilitation. Nous, on a eu la chance de gagner un Réinventé Paris, qui est l'immeuble Rue Victoria, vendu par la PHP.
Oui. Extraordinaire.
Donc, on est sur une réhabilitation extraordinaire parce qu'elle mêle à la fois des changements d'usage, une conservation patrimoniale, un travail avec les MH, les ABF, la ville de Paris avec deux associés.
Une dynamique extraordinaire à rez-de-chaussée.
Exactement. Ouais. Donc toute cette notion des socles actifs, et donc on travaille en plus en équipe. Hein, on est sur une copromotion avec Absis et RATP Solutions Ville. Donc là, on est quand même sur un exemple parfait de d'un moment de marché où il faut à la fois respecter un patrimoine, être inventif, travailler en équipe avec une ville exigeante, mais d'abord exigeante pour ceux qui habitent sa ville. Bon, donc là, il a fallu faire preuve de profusion
des villes. On est dans Paris et pas n'importe quelle adresse.
Non, c'est vrai, mais ce qui demande encore plus d'exigence de notre part.
Mais c'est vrai que le socle actif est formidable. Alors bon, il fait pas très beau en ce moment, mais j'incite les auditeurs à aller voir parce que c'est vraiment un petit bijou. C'est très intéressant. Alors, on a parlé réhabilitation, on a parlé se réinventer et les nouvelles idées pour demain.
Alors, c'est pas un métier facile à révolutionner. Hein. In fine, on aura toujours un terrain ou un immeuble et puis à réadapter. Et à la fin, on aura des logements ou du bureau ou de l'hôtel. Ou je crois quand même qu'il faut. Alors nous, on a une marque de résidence gérée hein, qui nous appartient, qui s'appelle Studélite, qui est un exploitant. Et ça, je pense qu'il faut. Je pense qu'en fait, l'immeuble de demain, il est mixte, quoi qu'on en dise. À mon avis, les grands centres d'affaurs d'hier et puis les quartiers de logement pur.
Là, c'est
elle n'existe plus et les architectes urbanistes le savent encore mieux que nous et ils travaillent. Donc c'est comment on fait cohabiter tous ces produits, si je reviens avec ce terme-là, comment on fait cohabiter les usages pour faire cohabiter le travailleur et puis
on pourrait imaginer exemple un immeuble. Alors j'imagine un immeuble avec un rez-de-chaussée actif, les trois premiers niveaux résidence personnes à mobilité réduite ou personnes âgées, et puis au-dessus, 5-6 logements, 5-6 étages de logements familiaux, on pourrait imaginer, ça ne se fait pas pour l'instant.
Non, ça ne se fait pas. Alors, il y a des continents qui sont plus en avance que nous. Hein.
Oui,
en Asie,
bien sûr,
il y a beaucoup de pays dans lesquels
énormément.
On trouve ça. Il faut à croire qu'en Europe, on ne s'appelle pas le vieux continent pour rien. Et donc, tout l'enjeu, il est de faire...
Difficile de secouer.
Oui, il est difficile à secouer, en fait. Je pense que c'est aussi nos acquéreurs finaux qui restent un peu figés sur des habitudes. Donc, alors notre rôle, c'est de bouger les lignes. On l'a fait un peu, encore une fois. Hein. Je pense que les réinventés nous ont poussé à ça, et même en région, quand on a vu des dessine-moi Toulouse ou autres, il y a une vraie émergence de ça. Je pense qu'il faut qu'on le pousse. C'est notre rôle. Ceux qui dessinent, ceux qui conçoivent et ceux qui vendent, il faut absolument qu'on pousse. Mais on peut pas être seul à le faire. Donc il faut aussi qu'on embarque avec nous nos citoyens, en fait, ceux qui habitent, ceux qui travaillent, à oser mêler leurs habitudes de vie. Et c'est un peu les prémices de ces coworking quand même, qui sont dans des zones parfois d'habitat pur.
Compliqué,
mais voilà, on vit les prémices, mais c'est pas dans les moments de crise. Enfin, les moments de crise sont assez paradoxaux parce qu'à la fois, ils poussent à devoir innover. Et en même temps, il y a une forme de je retiens ce que je sais parce que ça me rassure. Donc, continuons d'oser.
Mais je pense que avec votre venue chez BNP Real Estate, promotion immobilier, je suis sûre qu'une nouvelle ère est arrivée.
J'espère.
Merci beaucoup et à une prochaine fois pour continuer cette conversation sur des retours de projets, des retours d'expérience.
Merci beaucoup pour l'invitation,
Myriam,
et avec grand plaisir.
À bientôt, chers auditeurs, à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.